Donc, troisième soirée de l'Avent, c'est quel Messie attendons-nous? Est-ce qu'il n'est pas déjà venu? Voilà, c'est la question, la provocation pour ce soir, mais bonne provocation. Et donc, on va essayer de se nourrir dans cette dernière semaine. Je vous apprends quand même, pour certains, que c'est l'Avent. Hein. C'est le scoop du soir, on s'est accordé avec Christine pour vous l'annoncer. C'est l'Avent. 5 jours avant Noël. Donc on va partir d'abord d'une écoute de la Bible, de la liturgie, de ce qu'elle nous dit de l'Avent. Et ensuite on essayera de la réfléchir, de la penser pour l'aujourd'hui, pour nous, ce que ça signifie. On se posera des questions, un peu comme le rabbin, comme avec le rabbin. Ouais, je ferai le rabbin du soir. Voilà, Christine, à toi la parole.
Merci, Patrice. Donc, au départ, c'est venu que Marie-France a dit, bon, l'Avent, mais il est déjà venu, et on attend quoi? On a dit, ben, la parousie, et qu'est-ce que ça? La parousie, c'est quoi? On a dit, mais quand même, Marie-France, je connais forcément la parousie. Non, mais moi, je connais bien, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent moins bien, et tout ça, donc voilà, bon, elle a dit, ça serait peut-être bien qu'on en recause, quoi. Donc, voilà, on a essayé de faire quelque chose sur ça. Donc, l'Avent, c'est bien cette période de 4 semaines qui précède Noël. Et on est quand même dans l'octave des 8 jours qui précèdent. Là, on est déjà rentré vers la fin. Alors, ce terme provient d'un mot latin, adventus, avènement. Et ce mot latin, avènement, vient lui-même d'un mot grec, parousia, venu. Et on le trouve vraiment dans les écrits du Nouveau Testament en grec, c'est surtout parousia, la venue. Des fois, il existe épiphanie, manifestation. Et il existe plus rarement apocalyptein, révélation. Voilà, mais le plus souvent, les textes bibliques parlent de parousia.
Je voulais juste te demander, et en hébreu, est-ce que les premiers chrétiens, finalement, qui étaient juifs, avaient un mot pour ça en hébreu?
En araméen. Le jour du Seigneur. C'est plus le jour du Seigneur, à ce moment-là.
Et en fait, parousia, c'est une transcription dans le monde grec, hellénistique, du jour du Seigneur en hébreu. Mm. Et parousia, ça signifie venu, ça signifie venu. Présence. Mm. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour de la présence. Et voilà comment ils l'ont transcrit. Mm.
Alors parousia, au départ, c'est un terme d'origine profane. C'est intéressant parce que les premiers chrétiens, pour bien des choses, ils ont employé des termes d'origine profane de leur milieu de vie. Alors, parousia, c'est dans le langage de la cour, la première visite officielle d'un personnage important qui entre en charge. Et on a trouvé, dans l'archéologie, on a trouvé à Corinthe des pièces de monnaie Adventus Augustus, frappées Adventus Augustus. Et c'est l'avènement de qui? De Néron. Bon, Néron, on connaît quand même un peu. Et donc, on se dit, on est dans les années 60. Donc là, on a des pièces de monnaie qui étaient frappées pour l'avènement de Néron. Alors, dans le langage cultuel, c'est aussi quand la divinité d'un temple vient une fois par an, et puis on offre de l'encens, on offre des sacrifices, voilà. Elle vient visiter, la divinité vient visiter ses fidèles. Donc il y a cette idée-là. Alors quand les chrétiens reprennent ce terme parousia, c'est en attente de la venue glorieuse du Christ. Alors, comme le disait Patrice, on va faire un petit voyage dans les Écritures du Nouveau Testament. Après Pâques, les premiers chrétiens, ils pensent à un retour imminent du Christ. Et parti, mais là, il va revenir. Et le premier écrit chrétien que l'on a, la première aux Thessaloniciens, vers les années 50, 51, premier écrit chrétien, Paul, dans la première aux Thessaloniciens, il s'adresse aux fidèles de Thessalonique et il leur dit, c'est vous, notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire devant le Seigneur Jésus lors de sa venue parousia. Donc, voilà, vous, vous êtes mon titre de gloire, vous les chrétiens. Alors, bien sûr, le premier écrit chrétien, c'est quand même les années 50. Ça fait quand même une vingtaine d'années que le Christ est mort. Et oui, mais il y a des chrétiens dans ces 20 ans qui sont morts. Alors, quand le Christ va revenir, comment ça se fait? Comment ça va se passer? Il y en a qui sont morts, et nous, là, les communautés chrétiennes, on est vivants. Comment ça va être? Paul, il leur dit, toujours dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Au son de la trompette, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Alors, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, les fidèles, ressusciteront d'abord, et ensuite, nous, les vivants, nous serons enlevés aux cieux à la rencontre du Seigneur. » Et ainsi, on sera toujours avec le Seigneur. Donc, on a là le témoignage clair que Paul, il pense bien y être à la parousie. Quand le Christ revient, Paul, il est, qui est vivant, là, il pense qu'il y sera. Et avec les autres chrétiens, en deuxième, il y a d'abord les morts en Christ, mais nous, ensuite, on va être enlevés aux cieux et on sera avec le Christ tout le temps. Donc, voilà. Donc, la parousie, là, c'est quand même assez proche. Alors, Paul, même dans la première aux Thessaloniciens, il est confronté avec les chrétiens de Thessalonique, mais quand cela arrivera-t-il? Ah, on ne peut pas le dire. Vous-même, vous savez parfaitement que le jour du Seigneur, on retrouve le substrat araméen, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Donc, soyons vigilants. Voilà, donc là, on est vraiment avec le tout début des premiers écrits chrétiens. Première aux Corinthiens, au chapitre 15, dans ce chapitre consacré à la résurrection des morts, le Christ est ressuscité des morts, mais en prémisse de ceux qui sont endormis. Et par le Christ, tous seront vivifiés. Donc, lors de sa venue, au verset 23, lors de sa venue, tous nous le rejoindrons. Et il y aura la victoire du Christ, voilà. La parousie, c'est la victoire du Christ sur tous les ennemis. Donc le retour du Christ, c'est à la fois la vie avec lui, la rencontre et la vie avec lui, mais c'est aussi la victoire sur les forces du mal. Voilà, là, quand il reviendra, ce sera la victoire sur les forces du mal. Parce qu'il est ressuscité, mais... le mal continue, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il reviendra, il y aura la victoire sur les forces du mal. Alors, ce retour du Christ comprend l'idée d'accomplissement de ce qui a été commencé. Et on trouve ça dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1, verset 6. « Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Comme disait le rabbin, le Messie, il ne revient pas bien. Il ne revient pas vite. Et on est dans les synoptiques. Là, on est quand même plus tardif avec Matthieu. On a tout le chapitre 24 où le mot « parousie » est cité et utilisé quatre fois. Qu'est-ce qui est dit? Eh ben, alors, il y a la question, quel sera le signe de son avènement? Veillez, veillez, car vous ne pouvez pas savoir ni le jour ni l'heure. Et pas même le Fils. Et on a un texte où pas même le Fils. On ne sait pas le jour et l'heure. Pas même le Fils. Et dans les Actes, dans le chapitre 2 au verset 17, dans le discours de Pierre à la Pentecôte, il explique, ces gens qui parlent dans l'Esprit Saint, ils ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu. C'est la réalisation de la prophétie de Joël. Au dernier jour, Dieu répandra son esprit. La résurrection du Christ inaugure, c'est pas fini, inaugure les derniers jours. Alors, comme nous, au fur et à mesure qu'on va vers les écrits plus tardifs du Nouveau Testament, par rapport à la parousie, le ton c'est soyez patients. La lettre de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 et 8, prenez patience jusqu'à la venue du Seigneur, parousia. Prenez patience jusqu'à la venue du Seigneur, comme le cultivateur. Patientez, affermissez vos cœurs, parce que l'avènement, parousia, du Seigneur est proche. Enfin, même si on est exhorté par les responsables de communauté à la patience, etc., mais quand même, comment comprendre que le temps passe et que le retour du Seigneur tarde ? Comment le comprendre ? Le retour du Seigneur tarde. Comment ça se fait ? Alors, l'auteur de la deuxième lettre de Pierre, confronté à la question, tente de répondre. Deuxième de Pierre, chapitre 3, verset 4. Des railleurs viendront, disant, où est la promesse de son avènement ? Parousia, où est la promesse de son avènement ? Et la réponse de l'auteur de la deuxième de Pierre, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir la promesse, comme certains le pensent, mais il prend patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous fassent place à la conversion. » Donc, lui, il explique le retard de la parousie comme la patience de Dieu envers nous. Voilà pourquoi on est dans l'attente, parce que Dieu, il est patient avec nous et qu'il y a encore des conversions à effectuer. La deuxième aux Thessaloniciens qui aborde aussi le sujet de la venue du Christ dit « Au sujet de la venue du Christ, de notre rassemblement avec lui, ne vous laissez pas égarer. » Alors voilà, ça dure. Mais puisque ça dure, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire dans l'attente de ce jour ? Et là, on a des réponses dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4, verset 1. « Je t'adjure, en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui doit juger vivants et morts, par sa manifestation épiphanie, proclame la parole, insiste en temps opportun et hors de ce temps, exhorte à la patience. » Le Seigneur remettra la couronne de justice à ceux qui ont aimé sa manifestation, épiphanie. La lettre de Tite, au chapitre 2, versets 12 à 13, « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite pour mener dans le monde une vie raisonnable, juste, fidèle à Dieu. Nous vivons maintenant attendant la bienheureuse espérance et manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, on passe par différentes étapes, et se pose, avec le temps, que devons-nous faire, si on devait vivre droitement ? Et l'Apocalypse termine les dernières paroles du Nouveau Testament, chapitre 22, verset 17, verset 20, « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entend dise aussi « Viens » et dernière parole du Nouveau Testament « Viens Seigneur Jésus ». Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours dans les Écritures ? D'une part, que les premiers chrétiens, chrétiennes, ont eu conscience de vivre avec la venue du Christ une existence nouvelle. Quelque chose de neuf était là, en eux et entre eux. Cela, c'était déjà lié à sa venue parmi nous, à son partage de notre vie humaine, en nous montrant ce que devient une vie humaine quand elle est toute tournée vers Dieu. Mais le Christ était parti, bien sûr, faisant don de son esprit, mais après, il fallait tout organiser. Il n'avait pas laissé des consignes très nettes. Voilà. Bon. Alors, il fallait s'organiser dans le temps pour vivre de son esprit. Quelque chose a commencé, mais l'accomplissement est à venir. Alors, les chrétiens, ils ont conscience d'être dans un entre-deux. D'où l'attente du retour glorieux du Christ, qui sera aussi vie avec lui et victoire sur les forces du mal, qui sont encore agissantes. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir à travers les textes du Nouveau Testament. Alors, la liturgie. Ces éléments se retrouvent dans la liturgie. Dans le credo, dans la liturgie eucharistique, dans le credo, le deuxième article christologique du symbole de Nicée-Constantinople dit « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Donc on retrouve des choses qu'on a vues dans les Écritures. « Pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin ». Et le troisième article pneumatologique, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Donc on est bien dans cette attente-là. Et la liturgie eucharistique, dans la prière eucharistique, quand le célébrant, il est grand le mystère de la foi, nous, les fidèles, nous répondons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et ça, à chaque célébration eucharistique, on le dit bien. Donc on est tout à fait dans cette attente du deuxième avènement. Il est venu une fois, mais on attend le deuxième avènement. Voilà, voilà.
On fait un premier tour de questions, hein ? Questions-réponses, avec le premier rabbin. Enfin, rabbine.
Sur la dernière phrase, ça serait bien que tout le monde dise la même chose le dimanche. Nous annonçons ta mort.
Oui, il y a eu des petites modifications d'expression, là, c'est récent. Donc du coup, il y a des gens qui savent plus s'ils sont sous l'ancienne formule ou la nouvelle, oui. Mais l'idée, moi ce que je voulais attirer l'attention, c'est l'idée. On évoque bien la mort du Christ, sa résurrection, le centre de notre foi quand même. Hein. La mort du Christ, sa résurrection, mais on attend. On attend. Oui, il est là, mais on dit aussi qu'on attend, ça, hein. Ça veut dire.
Mais il y a ce n'est pas une formule, je ne sais plus dans quoi, enfin on le chante en tout cas. Il est, il était, il vient.
Oui.
Tout est dit là-dedans. C'est permanent.
Oui.
Il vient le deuxième. Quoi. J'ai l'impression que c'est une synthèse très forte. Quoi.
Oui, oui, j'en ai.
Pourquoi est-il si long à venir? Parce que peut-être il attend que tous les hommes soient sauvés.
Oui, mais. Oui, mais. Si, c'est ça, on le sent bien dans les textes de l'Écriture, il y a cette idée, on sera tous ensemble. Ça ne peut pas être l'affaire que de quelques-uns qui seraient déjà avec le Christ, et puis l'histoire continue, il y en a d'autres qui sont là, qui font ce qu'ils peuvent, qui essayent de se convertir, mais qui sont encore en chemin. Il y a cette idée. La communion avec le Christ et tous ensemble.
Tout le monde est concerné, même ceux qui ne sont pas croyants. Tout le monde est concerné.
En fait, dans le premier exercice, on a entendu, je crois que c'est Pierre qui dit, il y a les morts qui étaient pour le Christ, ils y seront, et nous, on est là aussi, mais il ne parle pas de ceux qui sont contre, il ne parle pas de tout le monde. Mais si, parce qu'il dit que le Christ viendra quand tout le mal sera éliminé.
Ce sera une victoire. Il y aura la venue du Christ correspond à une victoire sur les forces du mal. Parce que j'ai pas pu le dire l'autre fois au rabbin, parce que déjà le Messie, c'était un concept tellement ouvert et tout ça. Mais moi, j'avais des amis juifs avec qui je discutais. J'étais au lycée, de religion, et ils m'ont dit, mais oui, mais Christine, ton affaire que Jésus c'est le Messie, ça peut pas aller. Et alors, je dis, ben oui, alors c'est pourquoi ? Ben, parce que si c'est vraiment le Messie, oui, eh bien, il ne doit plus exister du tout de mal. Il ne doit plus exister du mal. Or, tu vois bien que ça continue, les injustices, les guerres et tout. Ah, j'ai dit, ben oui, ça continue. Et j'étais en seconde, hein. Ça devait être les années 72, par là. J'ai dit, oui, ça continue, le mal. Oui, j'étais obligée de dire. Bon, alors, j'ai continué quand même à rester chrétienne. Mais eux, leur grande objection, c'était que pour que le Christ soit le Messie, c'est que le mal continue. Donc, il y a quand même cette idée forte qui était déjà chez les premiers chrétiens. Tant qu'il y a encore le mal qui est présent, il y a quelque chose qui n'est pas accompli, quoi. Il manque quelque chose. Et je veux dire, l'actualité aujourd'hui, elle nous renvoie bien à ça.
Jésus pleure à Jérusalem. Sur Jérusalem, sur les habitants, à cause du mal.
Oui.
De ceux qui ne l'ont pas reconnu.
Qui ne l'ont pas reconnu.
Qui n'ont pas accepté.
Tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Ouais.
C'est son peuple aussi.
Ça ne veut pas dire que dans cette attente, la nôtre, il n'y a pas un parallèle avec celle des Juifs qui attendent le Messie.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Finalement, même si nous avons Jésus, le Christ qui est arrivé, oui, est-ce que nous attendons un deuxième Messie? Je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un ressemblance quand même avec
le... Il y a une certaine ressemblance. Mais en même temps, ce qui était très fort quand même chez les premiers chrétiens et tout ça, la venue du Christ a changé quand même quelque chose. C'est pas fini, il manque quelque chose, mais il y a quelque chose de profondément changé. La conversion, c'est ça, il y a quand même quelque chose qui est très différent. De croire au Christ.
C'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure, l'accomplissement. Accomplir cette venue initiale du Christ.
Voilà.
L'accomplir, la terminer.
Qu'elle soit pleine, qu'elle concerne... Oui, voilà. Oui. Mais pour chaque disciple du Christ, contempler un être humain qui est tout donné à Dieu, qui vit son humanité, les faiblesses de l'humanité, les ceci, les cela, mais avec une vie entièrement donnée à Dieu, ça change quand même les choses. Ça change quand même pas mal.
Alors... Les Écritures nous invitent vraiment à nous remettre dans le sens de l'histoire biblique. On attend le jour du Seigneur, le temps où Dieu visitera la terre. Or, on le trouve dans tout l'Ancien Testament. Le jour où tu viendras visiter la terre. Mais c'est un cri, viens nous sauver. Viens visiter la terre. Quand tu seras avec nous, tu nous changeras notre terre. On a besoin on attend ta venue. Et avant que ça prenne la forme messianique, hein, d'un fils d'homme qui doit venir presque en lieu tenant de Dieu, ce qui a donné l'idée du Christ. On attend la venue du Seigneur. On ne dit pas sous quelle forme il doit venir, mais on dit que s'il est présent, ça ira mieux. Il viendra nous sauver. Sa présence, hein, dont il est question dans parousie, venue, présence, hein, en grec, sa présence, on attend sa présence. Viens nous sauver. Viens nous visiter. Dans les écrits de Qumran aussi, et cette secte du temps intertestamentaire, au temps de Jésus, cette secte à Qumran, au bord du lac de Tibériade, attendait aussi celui qui devait, enfin, le Seigneur qui devait visiter la terre dans ses entrailles. C'est textuellement, viens nous visiter dans tes entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Viens nous visiter dans tes entrailles. Alors, il y a Philonenko, hein, qui est un philologue, hein, qui a présenté dans la collection de la Pléiade les écrits intertestamentaires, hein, ceux qu'on a retrouvés à Qumran, et qui met le doigt là-dessus. Il dit, mais c'est incroyable, on attendait la venue du Seigneur, on ne savait pas bien comment, mais il devait venir dans les entrailles de sa miséricorde, hein, en hébreu. C'est dans les entrailles. Viens dans les entrailles de ta miséricorde. Ça ne nous avance pas plus, mais ça montre que sa venue est mystérieuse. Elle vient dans quelque chose, dans un amour d'entrailles, hein, en entrailles, un amour inconditionnel, comme celui d'une mère, un amour qui a son enfant dans la peau. Donc viens dans cet amour-là, viens nous visiter. On a besoin de cela, et que de cela, en fait, pour être sauvé. Il y a cette attente. Regardons bien ce mouvement continu, c'est un continuum d'un mouvement unique. Quelquefois, ce mouvement biblique a été pipé, même quelquefois dans les expressions de notre tradition chrétienne, que ce soit chez les pères de l'Église, chez les grands auteurs chrétiens, spirituels, etc., on parle de retour du Christ. La Bible ne parle pas de retour. Elle dit quand il reviendra. Mais c'est une venue continue. C'est dans le même mouvement, dans le même continuum, dans le même mouvement. Il vient et il reviendra. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à dire il reviendra? Christine l'a bien expliqué. C'est que avec Jésus, avec saint Paul, on se dit, ben ça y est, c'est la parousie. Donc la présence, la venue en présence dans la plénitude, le jour du Seigneur, le jour de sa présence, le jour de sa parousie. Et puis on s'aperçoit que... Et puis on s'aperçoit que les temps messianiques n'arrivent pas. Il y a toujours des boiteux, il y a toujours des aveugles, il y a toujours des prisonniers. Bon, alors on se dit oui, c'est lui, c'est Jésus. Les chrétiens n'ont pas de doute, c'est lui, c'est le Christ qu'on attendait, hein, c'est celui qu'on attendait là qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient. C'est avec sa venue, avec sa mort, sa résurrection, c'est le jour du Seigneur, c'est la parousie. Mais avec ça, il devait y avoir les changements là rapides. Et puis on devait être emporté vers le Seigneur parce que c'était la fin. Et voilà, on n'en parlait plus quoi. Et Paul, il dit, ça sera de mon vivant. Ça sera de son vivant. Et puis, ça se fait attendre. Et alors, avec déjà du temps des Thessaloniciens, on dit, arrêtez de vous ennuyer là, à attendre, à plus rien faire. Travaillez, quoi. C'est pas parce qu'il doit venir qu'on ne doit pas travailler. Et puis, il se fait attendre. Alors, dans la tradition chrétienne, on commence à parler d'une deuxième parousie, d'une première parousie, d'une deuxième. Mais en fait, c'est une erreur de parler d'une deuxième parousie. La liturgie de l'Orient que l'on a récupérée après le Concile Vatican II, où on a un Noël qui dure, sur le temps de Noël, l'Épiphanie, c'est Noël, c'est encore Noël. Il y a une progressivité de sa venue. C'est donc on dit qu'il vient, il vient, il vient. Et puis, alors qu'on attendait que c'était pour les premiers chrétiens, les premiers, c'était la parousie, c'était la venue de Jésus, sa résurrection. C'est la parousie, c'était, et on finissait l'histoire. On voit que ça prend du retard. Alors on commence à se dire, donc il y a deux parousies. Il y a une parousie avec la mort et résurrection de Jésus. Puis il faut attendre encore la plénitude de sa présence, où il y aura les temps messianiques. Et donc on allonge. Et on parle de plusieurs avènements. Mais c'est une seule venue. Voilà, ça, on a besoin de récupérer ce mouvement unique. Il vient ou il revient, mais ce n'est pas un retour. C'est lui qui vient et qui vient jusqu'à sa plénitude. C'est le même, c'est lui-même qui vient comme une aurore jusqu'au zénith. C'est le même. C'est cette venue. Alors ça, c'est vraiment important. C'est important de prendre conscience de cet unique mouvement. le temps. Et donc, là, on se trouve à peu près... on se trouve dans le même mouvement que les Juifs. On attend. Et puis, on attend de manière imminente la parabole des jeunes filles sages. C'est cette nuit, c'est ce soir. Donc, on se retrouve un peu après avec les interrogations du rabbin. Si on y croit vraiment, comme le rabbin y croyait il y a 30 ans, alors c'est ce soir. Donc, ce n'est pas la peine de prendre la pension retraite. Mais vraiment, on voit que jusqu'à l'Apocalypse vient Seigneur Jésus, Maranatha. Donc il y a une attente vive. Et celle-ci, ce serait dommage de perdre ce sens de l'attente du jour du Seigneur, de sa venue en plénitude. C'est ce que nous attendons. Alors, oui. Le rabbin nous a dit, mais après j'ai décodé. Je me suis dit, mais Mashiach, ça vient aussi du verbe qui veut dire relier, relation. Donc je me suis dit, mais est-ce que je vais peut-être apprendre à lire sa venue, à lire sa venue dans les rencontres qui semblent anodines, les rencontres de tous les jours. Avec un tel, au bar, dans la rue. Et je vais apprendre à lire, quelque part, comment la venue du Messie affleure dans ces rencontres. Alors, il y a cette idée-là. Donc, le rabbin nous disait, j'ai appris à réinterpréter. Non pas que je n'y crois pas, mais je l'interprète d'une manière différente. On voit que saint Paul apprend aussi à réinterpréter, puisqu'il dit, au départ, il dit c'est de mon vivant, et après il dit bon. Et s'il y avait plusieurs générations, ce ne serait pas un problème. Il y a une réinterprétation. Mais ils sont tous, que ce soit le rabbin, que ce soit Paul, éblouis par le jour du Seigneur. Il y a vraiment. Il y a une attente et il y a un éblouissement. Et ce serait dommage qu'on perde cette dimension. Qu'elle se sécularise trop. L'avant dans toutes les églises, qu'il dure quatre semaines, six semaines à Milan, là, dans le rite ambrosien ou dans les autres églises, ça peut durer deux mois. Mais l'avant, il nous est donné pour nous dire, ne laissez pas trop séculariser votre attente. Faites une relecture, bien sûr, faites une réinterprétation. Mais ne vous sécularisez pas trop, attendez-le comme si c'était ce soir. C'est une tension. Alors on se dit, oui, mais alors dans ce cas-là, bon, le rabbin, il a eu tort au départ, les premiers chrétiens, ils ont eu tort. Après tout, est-ce que c'est pas la vision séculariste, séculière, sécularisée, qui devrait prévaloir ? Oh, Marx était juif. Et puis lui, ben, il a vu les temps messianiques dans l'avènement... de mettre tout en commun du communisme. Alors après, il faut se poser la question des moyens. Moi, je pense que les derniers communistes de cette terre, c'est les sœurs et les prêtres. Parce qu'on est tous payés de même manière. Même l'évêque, il n'est pas payé plus cher. C'est pas mal, hein. On est les derniers des communistes. Mais après, c'est les moyens que Marx et Lénine ont mis en place qui n'étaient pas les bons. Pas adapté. Mais c'est une vision sécularisée du messianisme juif, chez Marx. Mais c'est sécularisé. Il n'y a plus une attente qui surprend, qui va... Viens, Seigneur, viens, et tu vas nous sauver par ta présence. Non, c'est je produis ces temps messianiques à la force du poignet et d'une réorganisation structurelle de la société. C'est sécularisé. Mais alors... Donc, ne pas tomber dans une réinterprétation purement séculière, ce serait dommage. Le rabbin s'émerveille toujours de ses rencontres quotidiennes. Il s'émerveille. Et Jésus, alors, comment est-ce qu'il a vécu tout ça? Parce que c'est quand même lui notre modèle. Bon, toujours face à son père. Donc lui, c'était d'une présence à une présence, c'était une parousie continue. Mais... Lui aussi, il a réinterprété. Jésus a réinterprété. Donc ça nous dit qu'on a le droit de réinterpréter comme le rabbin, mais aussi comme saint Paul, et comme les premiers chrétiens et la tradition chrétienne. Réinterpréter. Comment est-ce qu'il réinterprète ? Ses disciples attendent un Messie. Judas attend un Messie. Il y a des figures, des interprétations sur le Messie qui doit venir. Quelle forme il aura ? Comment il va agir ? De quelle manière ? Et dans quel temps ? C'est la dernière question avant l'ascension où il lui pose la question. C'est les Actes des apôtres. Bon, alors... dis-nous, hein.
Tu vas établir la royauté.
Là, oui, bon tu as introduit la royauté là, parce que bon, oui, tu es vivant, mais là, dis-nous. Et Jésus dit, les temps, il vous apporte peu de connaître les temps. Donc, dans les évangiles, on a une réinterprétation. Mais Jésus lui-même, il fait une réinterprétation dans tous les évangiles. Quand les Zélotes lui disent qu'ils l'ont trouvé, qu'ils voient en lui le Messie, le roi libérateur des Romains, le roi d'Israël, Jésus s'éclipse. Il ne veut pas de cette interprétation. Quand Pierre dit « tu es le Messie », Jésus le prie de se taire, le secret messianique, « tais-toi ». Ne le dit à personne. Par crainte d'une fausse interprétation du Messie. Il ne veut pas passer pour cette image erronée du Messie. Donc finalement, Jésus aujourd'hui m'invite à réinterpréter mes espérances messianiques. Ma manière de concevoir même l'ère messianique de la parousie. Il m'invite à réinterpréter. Il ne me dit pas « réinterprète-le » comme Marx, il ne me dit pas ça. Mais il me dit « réinterprète, réinterprète continuellement. Quel Messie attendons-nous ? » Voilà, c'est le titre de notre rencontre. Quel Messie ? Et quelle ère messianique attendons-nous ? Nos braves frères de l'islam. J'aime bien quand à Jérusalem on va sur le sommet du Mont des Oliviers. Le sommet où musulmans et chrétiens voient les traces de l'ascension de Jésus au ciel. Et donc c'était une église chrétienne, les croisés, puis Saladin a reconquis cette église, c'est devenu une mosquée. Et puis les chrétiens sont revenus, ils l'ont reconquis et c'est redevenu une église. Puis les musulmans sont revenus et c'est de nouveau une mosquée, on l'a vu. On paye hein, pour entrer dans la mosquée et on va vénérer le lieu, du moins les Actes des apôtres nous disent c'est le départ de Jésus il est assumé dans le ciel, il est pris dans le ciel de Dieu, son Père. Et j'aime bien l'interprétation que les chrétiens font. Évidemment, c'est dans ma foi, c'est la mienne. L'ascension, c'est la fin de la période pascale. Il était visible comme ressuscité, il s'est manifesté. Puis là, à partir de l'ascension, ils ne le verront plus et c'est l'Esprit qui va venir, comme vous l'avez dit. Et les musulmans ont une autre interprétation. Et c'est pour ça que c'est un lieu saint pour eux. Il y a un conflit d'interprétation. Et c'est peut-être dans cet entre-deux du conflit d'interprétation que Jésus nous dit « Apprends à réinterpréter. Tu réinterprètes comment, là ?» Et alors les musulmans disent « On a tellement de respect pour Aïssa, pour Jésus. On a tellement de respect. C'était vraiment un prophète, un grand prophète, le plus grand, le sceau, S-C-E-A-U. » Des prophètes. Il a scellé quelque chose, hein, une venue de... il ne peut pas, en tant que grand prophète, et encore ils disent pas Messie, Machiar comme les Juifs, comme nous, Messie, Christ, mais comme grand prophète, c'est pas possible. Il peut pas mourir sur une croix. Dieu ne peut pas abandonner son prophète. C'est pas possible. Dieu ne peut pas l'abandonner devant l'épreuve dans la mort.
Dieu, il est contre la mort. Il est jamais...
Attendez juste un instant. Parce que moi, quelquefois, je suis un peu musulman. Mais ça, ne le dites pas à mon évêque. Non, on l'est tous un peu dans nos interprétations. Parce que là, l'interprétation du bon musulman qui dit, mais le prophète est tellement proche de Dieu. Et Jésus, il a tellement été proche. Il ne l'a jamais abandonné. C'est le plus grand des prophètes. Dieu ne peut pas l'abandonner. Il ne peut pas le laisser dans cette épreuve, abandonné de tous, l'épreuve de la croix, de la mort. L'abandonner comme ça, ce n'est pas possible. Alors, interprétation de la tradition musulmane, c'est que oui, Aïssa est vraiment monté au ciel de cet endroit que disent les chrétiens. Mais à cet endroit-là, à ce moment-là, en fait, les pauvres apôtres qui étaient obnubilés, hein, fascinés par Jésus, ils n'ont pas vu le réel. Et à ce moment-là, il y a un autre homme qui lui ressemblait vraiment, hein, comme Poutine 2. Enfin, Poutine, il a des sosies. Un sosie qui est arrivé, il y avait des foules, et puis il a remplacé Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, est monté au ciel, mais c'est ce sosie, les disciples, ils n'ont pas vu. Et c'est ce sosie qu'ils ont suivi, qui n'était pas le grand prophète, et qui est mort sur la croix. Mais c'est très intelligent, ce que proposent les musulmans. La tradition musulmane, c'est vraiment très intelligent et c'est profondément spirituel. C'est le Messie, c'est quelqu'un qui vient nous sauver, qui vient établir l'ère messianique. C'est quelqu'un qui est tellement proche de son Père, de Dieu. Dieu ne l'abandonne pas. C'est une question existentielle. Or, il m'arrive, moi, chrétien, baptisé, que face à certaines épreuves de la vie, dans ma prière, je fais quelquefois le napolitain qui invoque Dieu et qui dit « Seigneur, ah là tu vas agir, hein, là tu interviens, et si tu n'interviens pas, je te traiterai de cocu. » Ils le font dans la cathédrale de Naples. Ah oui. Le jour de la fête de Saint-Gennaro, de Saint-Janvier, en septembre, le 19 septembre, si le sang de janvier ne se liquéfie pas, j'ai participé un jour, il le traite de tous les noms. Alors, c'est le saint qui traite de cocu, hein. Attendons-nous bien. Cornuto, ils le lui disent, hein, je l'ai entendu. Et souvent, ils obtiennent que le sang se liquéfie. Alors, ça, après, c'est la foi, hein. Mais quand ils ne se liquéfient pas, et ça arrive, ils se disent « Oh, ça va être une très mauvaise année. » Mais quand Dieu ne répond pas à notre prière, quand au creux des épreuves, alors qu'on est innocent, qu'il n'y a pas de... Ben, on a des nuits obscures dans notre vie. Des nuits obscures. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu existe? Ah, oui. Comment il s'appelle là, le moine qui est mort à Simiane? Louf, André Louf. André Louf, il écrit, il dit, les moines sont experts en athéisme. Parce que les moines font l'expérience dans leur cheminement spirituel, mais tout chrétien d'une manière ou d'une autre, mais ils font l'expérience de la nuit obscure, où il n'y a pas de réponse. Il est absent, il ne répond pas. On ne sent pas sa présence. Il n'y a rien. Il n'y a que l'épreuve. Malgré tout ce qu'on a donné pour lui. Eh ben, c'est pour cela que les moines sont experts en athéisme. Parce qu'ils expérimentent cela. Donc, quand un musulman interprète de cette manière, Oui, c'est par rapport à une figure du salut. Qu'est-ce que j'attends comme salut? Donc, qui est le Christ que j'attends? Et Jésus, face à ses disciples qui ont tendance il y a Judas qui attend un Messie libérateur. Il y a les autres qui disent, il y a Jean et Jacques qui disent, attends, nous on attend l'ère messianique. Tu t'installes sur ton trône, tu es le roi, et puis moi je suis ton adjoint, et puis moi aussi, à gauche ou à droite, ils le disent. Enfin, ils le rêvent. Et ils disent à leur maman, oh, allez, intercède pour nous. Hein. Et Jésus invite continuellement les disciples à faire une relecture de ce qu'ils entendent par Messie. Donc Jésus est le premier à faire une relecture. Et il va nous faire faire une relecture jusqu'à la mort sur la croix. Et là, il n'y a plus que Marie là, qui est debout devant la croix. Donc, cette relecture que Paul a commencée, que Jésus avait initiée, que le rabbin a fait, l'avant nous dit faites continuellement une relecture du Messie que vous attendez, du salut que vous attendez, mais que ce ne soit pas une lecture sécularisante qui vous empêcherait d'attendre aujourd'hui sa venue. Viens, Seigneur Jésus, viens nous sauver, quoi. Hein. Donc Jésus est le premier qui fait la critique du messianisme. Et nous attendons maintenant ce qu'on appelle son dernier avènement, enfin sa dernière venue, là, dans la plénitude. Alors, à quoi ça peut ressembler? Parce que, comme dit Christine, ce sera universel. Ça concernera tout le monde, cette parousie, cette venue. Cette transformation, comme disent les Juifs, c'est une transformation du monde, mais concrète. Là, les boiteux ne boiteront plus. On est encore pas arrivé au temps messianique. Hein. Non, ce sera concret. Et les Juifs nous disent, ce sera concret. Alors.
Mais pourquoi faut-il y croire?
Alors, mais comment le penser? Un jour, je pensais un peu ça. J'allais à la Cateau de Lyon. C'était dans les années 2000. Et je prenais le train de Miribel, le tram de Laurent Bonnevet jusqu'à Bellecour. Et j'étais absorbé par mes études, donc bien assis dans le métro. Et je pensais à ça et je me disais, c'est quoi le dernier jour, le jugement dernier? J'étais assis. Une personne très âgée, une vieille dame, restait debout. Parce qu'on était tous assis. Et moi, je ne l'ai pas vue. Je ne m'en suis pas soucié. Et le jeune musulman du quartier, là, Laurent Bonnevet, Vaux-en-Velin, est à côté de moi. Il se lève et il va dire, là on est de que faire, il va dire à la vieille dame, venez, asseyez-vous quand même. La honte de ma vie. Je me suis dit, j'ai rien vu. Je me suis pas bougé. J'ai rien vu. Mais vraiment, ce petit geste qu'a fait ce musulman a eu un impact sur moi. Oui, mais sur le long terme, j'espère. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que tu restes assis dans ces conditions-là. Fais quelque chose. Enfin, bouge-toi, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas que moi qui ai vu ça. Il y en a d'autres qui étaient dans le tram. Mais combien de semences il a jeté, ce jeune musulman, autour de nous? Et cette semence, alors, quand les autres fois, en 20 ans, on a le temps de prendre le tram, de se lever, et peut-être, sans doute, je me suis levé, hein, plusieurs fois. Maintenant, ça me préoccupe, on commence à se lever pour moi. C'est préoccupant. Mais je me dis, mais ça... Il a jeté une semence en moi. Cette semence, elle m'a transformé. Elle transforme à chaque fois d'autres personnes. Le jugement dernier, ce sera quoi? Ce sera le constat de la fécondité de toutes ces semences à la fin. Et on sera émerveillés. Moi, je le crois. ce sera un émerveillement. Parce qu'on se dira, alors le peu que j'ai fait là, ah, ça a pris toutes ces dimensions au cours des générations, parce qu'il y a plusieurs générations qui passeront encore, sûrement, enfin peut-être, ou peut-être pas, mais quand même depuis... Mais c'est la venue du Messie. Parce qu'il y a un émerveillement, là. Il y a... Et donc, ben, moi, j'aime beaucoup cet engendrement, parce que, on le dit, c'est la plénitude du corps du Christ, de l'Église qui viendra. Donc, il y a une plénitude qu'on attend, la plénitude, la parousie, la plénitude de sa présence, la plénitude de son corps à travers l'Église, à travers tous ceux qui sont transformés par cette semence. C'est ça qu'on attend. Alors, Rosenzweig, je finis là-dessus, et après, on engage aussi à parler hein, sur ces réinterprétations continues dans notre vie. Mais Rosenzweig, c'est un autre juif, autour de 1923, il écrit, il était sur le point de demander le baptême, et la nuit qui précède, il renonce. En Allemagne, il renonce. Et il écrit, c'est fort probable que Jésus, par sa personne, est vraiment la grande semence messianique, celle qu'on attend. Même dans les Écritures, il y a la semence, hein, Zera en hébreu, dans la Genèse déjà, viendra la semence. Il dit, c'est fort probable que ce soit lui. Mais j'en suis pas sûr. Donc, je crois pas, je sais pas. Je m'abstiens du baptême, mais j'attends la fin. Parce que c'est à la fin qu'on pourra voir si ces semences de la fin, de la plénitude du temps messianique, sont vraiment liées à ce Jésus. S'il a été vraiment cet ensemenceur du royaume. Je trouve que c'est une belle perspective aussi. En tout cas, moi, comment ça m'interpelle, c'est que Jésus, aujourd'hui, me dit, Patrice, réinterprète ton messianisme, ton rapport au Christ, ton rapport à ton image de Dieu. Réinterprète, tu n'y es pas. Donc, je me trouve entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais je suis baptisé, hein. Sacramentellement, je suis chrétien, mais existentiellement, quelquefois je suis un peu juif, quelquefois je suis un peu musulman, et quelquefois je suis un peu marxiste. Et donc, réinterprétation continue de la venue du Messie dans notre vie. Voilà, alors on peut discuter de tout ça.
Déjà que c'était pas facile en étant chrétien, alors s'il faut intégrer tout ça, ça va être.
Non, mais moi je crois hein, que Jésus est le Christ. Entendons-nous bien, je crois qu'il est ressuscité. Mais l'histoire n'est pas finie. C'est pas fini. Il y a quelque chose qui advient. Les avènements, c'est ça. Quand on dit un avènement, deux avènements, trois avènements, quatre avènements, cinq pour certains, Saint Bernard. Bon. Les avènements, c'est. Il advient. Il est en train d'advenir. Ça, c'est important. Et les Juifs, ça, ils nous le rappellent. Balthazar, le théologien, il dit. On s'était tellement concentré sur le Christ, on a été tellement ébloui par Jésus qu'on a oublié qu'il est en train d'ensemencer le monde et qu'on attend une ère messianique concrète. Donc les Juifs nous le rappellent. Et donc on ne remet pas du tout en question le fait de Jésus, le Fils de Dieu. Hein. Moi, je ne le remets pas en question. Mais je dis que ce n'est pas la fin de l'histoire.
Depuis qu'il a dit qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin du temps. Donc il est là.
Il est là. Jean-Marie, c'est comment ? Il vient, il est là, et
il était.
Donc il y a une articulation avec tout. On ne peut pas se limiter à dire il est là. On ne peut pas.
Non, c'est ça.
Les chrétiens l'avaient bien compris. Hein. Trois, c'est articulé. Parce que la plénitude n'est pas là.
La plénitude n'est pas là.
En fait, c'est à 20 ans, c'est... Le Seigneur, il veut de nous que nous soyons actifs et pas passifs. En fait, cette venue ne peut pas arriver du tout dans cette facilité parce qu'elle n'aura pas lieu d'exister. C'est seulement si nous sommes actifs, alors là, il y aura la transformation et que cette continuité qui est utilisée tout à l'heure aura lieu, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas eu d'interruption, on est d'accord?
C'est ça.
C'est pas qu'on va attendre Jésus qui va revenir pour faire un grand miracle, que nous allons tous sauver, tous guéris, tous ceci. Pendant qu'on se tourne les pouces et qu'on fait tous nos crétineries, tous nos conneries, Voilà.
Ça, c'est ça.
Excusez-moi, c'est ce mot-là aussi, comme ça, cru. Mais c'est simplement si nous sommes comme dans l'Évangile qui disent les trois filles, celles qui sont dans l'attente, qui font attention, qui ont acheté l'huile en prévision, etc. Qui, oui, se sont endormies, etc. Parce qu'ils pouvaient poser, bien entendu, il faut se reposer. Mais ils ont fait attention que les autres, comme ça, de toute manière, il va arriver, donc voilà. Et non, il ne va pas arriver comme ça, sans que je ne m'engage pas à quelque chose. Et l'avenir, la parousie initiale de Jésus, elle a été celle, même dans sa mort en croix, de nous enseigner, de nous montrer qu'il n'était pas facile du tout, et que c'est dans cette féroce difficulté qu'il nous a démontré, voilà, qu'il s'est donné complètement, ce n'est pas vilain du tout, ce n'est pas horrible. Il y a un amour incroyable, viscéral, qui a. Et donc, c'est à cela qu'il nous invite, à l'imiter dans cela, avec nos moyens, bien sûr, les petits moyens de chaque jour, pas nécessairement d'aller se mettre dans la croix comme lui, c'est pas ça. Mais. Voilà, ce sont des petites choses, comme le rabbin le disait, comme aussi qu'il disait avec les petits gestes, c'est cette posture, c'est cette chose de ne pas rester. Oui. Focaliser en soi-même, dans nos bobos, dans notre conception, et d'avoir ce courage, cette liberté de tourner le regard ailleurs, et que là nous avons tout à gagner, parce que c'est là que nous pouvons s'aimer et féconder.
Oui.
Le verbe que tu as utilisé tout à l'heure, oui. C'est juste.
C'est ça que j'ai bien aimé chez le rabbin, qu'il a autant insisté sur le rôle, la place de l'homme. Et de relations entre les hommes. Mmh. Bon, l'horizontale et verticale, et ça c'est très fort, j'ai beaucoup apprécié ça. Ce que tu dis un petit peu là, hein, sur l'action, le rôle, la place de l'homme.
Des petits gestes comme de ce jeune homme, oui. Vous en pouvez faire tout le temps, vous regardez quelqu'un, vous faites un petit sourire, vous voyez que la personne, d'abord elle est surprise, et puis. Il y en a qui disent qu'est-ce que là, cela vous regardez. Et puis d'autres, vous voyez vraiment qu'ils sont reconnaissantes, les personnes. Quand vous les regardez, vous leur faites un petit sourire.
Et là, je retrouve.
Voilà, c'est ça, les
semences. Oui. Et là, je retrouve l'expression de Christine qui disait mais la venue de Jésus, c'est pas anodin. Il s'est passé quelque chose de. Le kairos, hein, un moment déterminant pour l'histoire de l'humanité, parce que plus que ce jeune de Vouinvelin qui m'a transformé, enfin qui a agi sur moi, Jésus, il porte en lui la plénitude de la présence de son Père, et donc il happe vraiment dans un mouvement de salut qui est déterminant, quoi. Nous le croyons, quoi. Il y a ça. On peut pas le relativiser, mais c'est à avoir dans un mouvement de continu.
Et ça veut dire aussi, je pense que c'est important aussi de le dire, que cette transformation ne peut pas avoir lieu chez les chrétiens simplement, justement. Donc c'est universel, cette transformation, cette reconnaissance, elle est universelle, donc elle n'est pas non plus se prendre pour je ne sais pas qui, voilà, je suis chrétien et donc je suis dans les justes, je suis dans les biens et toi non et toi non plus, etc. Parce que c'est pas vrai,
On trouve ce cri, viens nous visiter. On le trouve dans la Bhagavad Gita, on le trouve dans les cultures, dans toutes les cultures humaines, et donc aussi dans les religions en particulier, hein, vient nous visiter. C'est formulé de manière différente, mais bien.
Oui, mais par rapport à ce que tu dis, Antonia, moi je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile. C'est pas qu'on est plus, il y a pu y avoir cette tentation de dire nous chrétiens, tout ça, mais on a, comme les juifs, une responsabilité avec l'élection. Oui, les juifs, tu es béni Abraham pour toutes les familles de la terre. Tu portes cette responsabilité de l'élection. En toi seront bénis. Par toi passe la bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est une responsabilité, c'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et les chrétiens, nous, eh ben, on l'a bien, cette responsabilité. Elle n'est pas quand même plus, mais c'est une grosse responsabilité qu'on a.
Oui, c'est pas anodin. C'est pas neutre. Alors, comme disent les juifs d'Odessa, en Ukraine, les juifs d'Odessa, ils disent... Tu aurais pu choisir un autre peuple. Avec tout ce qu'on endure, tu aurais pu choisir un autre peuple. Mais il y a une responsabilité, en tout cas. Hein.
Oui.
C'est pas anodin.
Tu es d'accord avec
moi. Oui. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire ça. Mais il y a une responsabilité.
Il y a plus de joie, je crois. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que quand on est chrétien, il y a une joie qui nous est donnée. Mais pourquoi, je ne sais pas. Mais on
n'est
pas meilleur
que les autres.
Non, meilleur, non, mais... Il s'instaure une relation avec le Christ, ou par le Christ avec Dieu, et ça... Ça devrait pouvoir transformer un peu.
Je sens ce qu'on est en train de dire, c'est que... Finalement, c'est très salutaire d'avoir des contacts avec les juifs ou les musulmans, etc. Parce qu'ils nous obligent à ne pas nous enfermer dans des images, dans des représentations. Mais ces contacts, ces relations nous maintiennent dans une ouverture permanente et justement cette dimension de l'attente, de la recherche, on ne possède pas, on ne sait pas en fait. Même si on sait qui c'est le Christ, mais on ne sait pas en même temps. C'est très curieux ça.
C'est très curieux.
Oui, et dernièrement, il y a quand même aussi plusieurs articles de prise de parole de Jean-Marc Adeline sur le judaïsme et les chrétiens qui subsistent comme ça. Et ben, c'est pas parce qu'il y a les chrétiens, bon, parce qu'il y a eu un moment un truc, ils remplacent, non, ils remplacent rien du tout. Les juifs sont là, mais la promesse, elle leur est pas enlevée. Dieu, il n'a pas enlevé la promesse, donc ils portent la promesse. Nous, on a autre chose. Et donc, ils sont les deux, et ils se renvoient une altérité dans la mission que Dieu leur donne. Elle n'est pas la même, mais les deux portent une mission de Dieu. Ils sont envoyés par Dieu, et les deux portent une mission de Dieu. Et c'est bien pour nous, de temps en temps, de dire, ah oui, eux aussi, Dieu leur confie une tâche. Oui, eux aussi,
il n'y
a pas que nous.
C'est mon patience qui dit fréquemment Saint Paul, par exemple, pas simplement lui, nous avons entendu ce soir, ça veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement patienter qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va changer, cette patience.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois la patience, mais aussi elle est vigilante. C'est un état de veille,
voilà.
C'est actif.
Tout à fait, c'est
ça. C'est pas une patience. Voilà, non, c'est une vigilance active. Soyez vigilants, soyez en état de veille.
C'est important, ces mots-là.
Et il y a cette réinterprétation que tu as évoquée de Saint Paul, qui dit, de Saint Pierre, dit où il y a notre patience, mais il y a surtout la patience de Dieu. En fait, il est patient envers nous. Et ça me rappelle la parabole de l'herbe. La semence. En fait, il attend que ça pousse, que le bien pousse, et puis que
et qu'on ait le temps de se convertir.
Oui, ça c'est pas mal comme interprétation. C'est pas mal, c'est pas mal.
Mais aussi la patience envers les autres, aussi la patience.
Oui.
La patience, quand même, c'est-à-dire oui, n'est pas simplement une patience individuelle. Non, mais c'est inter...
Comment dire? Oui, oui, et si Dieu a patience envers tous, alors je peux bien avoir essayé d'avoir un peu de patience envers les autres, quoi, hein, parce que il sait, Dieu, le Seigneur le premier sait qu'ils ne sont pas arrivés. Donc cette réinterprétation, oui, mais c'est curieux vraiment, hein. On sait qui est le Christ. On croit que c'est Jésus et on ne sait pas ce que c'est que le Christ. On sait qui il est, on ne sait pas ce que c'est que le Christ, ou pas assez. On a encore des images fausses.
Je n'ai pas compris.
Nous croyons que Jésus est le Christ. Et nous voyons bien qui était Jésus, hein, par les récits évangéliques, bon, histoire. Mais on ne voit encore pas vraiment ce que c'est que le mot Christ, ce que ça signifie dans toute sa densité. Donc on a beau dire Jésus est le Christ, il y a quelque chose de curieux. Hein.
Oui, parce qu'en fait, on a quand même l'image du ressuscité.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Donc quand il est apparu, enfin, quand les femmes ont perçu un tombeau vide, ça a été la déroute quand même. Et pourquoi est-ce? Donc elles ont bien eu, elles, à réinterpréter les choses à ce moment-là.
Ouais.
Donc on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas.
On a beau dire, je crois, mais on ne sait pas tout.
C'est une petite remarque, ça fait peut-être que l'évangile d'aujourd'hui de Zacharie peut nous éclairer là-dessus, sur Zacharie, justement Zacharie, qui est un prêtre d'Israël, donc il connaît l'histoire du salut. Il connaît ce qui est arrivé à Sarah quand les trois petits personnages sont arrivés et lui annoncer une bonne nouvelle, tu vas enfanter, puis elle rit. Il connaît Anne qui apprend qu'elle va enfanter Samuel. Donc il connaît comment Dieu se manifeste, tout ça, tout bien et tout le truc. Et pourtant, quand Gabriel arrive, qui lui annonce, je t'annonce une bonne nouvelle, tu vas enfanter, il croit peu, il n'y croit rien. Alors que c'est un savant, c'était pas le premier, c'était pas comme la Vierge Marie, la petite jeune femme, là, on lui annonce, bon, elle est un peu déboussolée, elle a 16 ans, 17 ans et tout ça, lui, c'est un routinier et tout ça, il connaît tout ça, lui, et pourtant Gabriel vient lui dire, tu vas avoir un fils, il devrait s'émerveiller, ben non, il est dubitatif et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que Gabriel répond à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens en présence du Seigneur. Donc Dieu vient et il lui dit, puisque tu m'as pas cru alors que tu connaissais toute l'histoire du salut, tu seras muet jusqu'à ce que ces événements arrivent. Donc les événements sont arrivés puisque la nouvelle est là, l'événement elle arrive, le Seigneur se tient en présence, mais il a pas cru, il va falloir qu'il attende jusqu'à ce que ça arrive vraiment. Donc on est toujours, comme tu disais, dans cette continuelle,
oui, oui.
Et on a à ce, et justement, et Zacharie va avoir, et d'ailleurs le peuple sait quand il sort du temple, il s'est passé quelque chose, il y a une venue qui est arrivée, mais on ne sait pas encore, il va falloir attendre 9 mois pour voir qu'arriver Jean.
Oui, mais enfin, moi je défends un peu le pauvre Zacharie. Parce que comment ça va se faire? Moi, je suis vieux, les vieilles, alors quand même. Bon, et on dit, oui, mais lui, là, tu n'as pas cru. Mais enfin, la Vierge Marie, elle dit, oui, non, mais moi, je n'ai pas connu d'homme, hein. J'ai pas connu d'homme. Donc, elle tient à peu près le même discours. Elle ne dit pas qu'elle est vieille, elle dit qu'elle n'a pas connu d'homme. Donc, d'accord, je vais porter. Oui. Donc, pour moi, c'est à peu près la réaction, c'est la même. Et le grand Abraham, le père des croyants, le grand patriarche, machin, il s'écroule de rire devant. Tu vois, l'année prochaine, tu auras un fils. Oui, oui, bon, je vais. Isaac, machin, tout ça. Isaac, tu as ri. Tu as ri. Elle a ri derrière la tente, mais lui, il a ri la face courbée contre terre, la terre contre le visage contre la terre, mais il a bien rigolé aussi. Donc, je veux dire, le père des croyants, quand il entend la parole du Seigneur, tu vas concevoir, oui, bien sûr.
Les orthodoxes vont jusqu'à, évoquant des apocryphes, hein, à Nazareth, vous vous rappelez, il y a l'église des Syriens orthodoxes avec la fontaine dedans, qui est quand même à 800 mètres peut-être de la basilique de l'Annonciation. La tradition orthodoxe dit qu'il y a eu une première annonciation, et puis il y a eu une autre annonciation finalement dans la maison de Marie. Mais il y aurait plusieurs annonciations à Marie. Ça évoque le temps, là, la temporalité face à l'annonce, la réception.
C'est quand même curieux parce que tout l'Ancien Testament, on dirait qu'il fallait que ça arrive. Moi, je pense que Jésus, il était libre quand même. Il n'était pas obligé, quoi. Il fallait que ça se passe. Ça me trouble beaucoup. Il fallait. Comme si c'était obligé, comme si c'était un passage obligé.
Mais ça, c'est ça pour le coup, en lien avec ce que Patrice vient de dire, interprétation, rapport à Jésus et à ce qui pouvait étonner Pierre et la plupart du temps. Là, tous les évangiles, ils les aiment bien, les 12 quand même, ils les vénèrent, mais. Les 4 évangiles disent qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils parlent du pain, et on a combien de pain ? On a pris dans la barque, c'est combien ? Je ne vous parle pas de ça. Constamment, les 4 évangélistes disent qu'ils ne comprenaient rien, de rien, de rien, les apôtres. Et pourtant, ils les aiment bien. Ils les vénèrent.
Vous voulez comprendre ça ?
Oui. Non, mais ce que je veux dire, donc il y a eu ce travail de réinterprétation. Après, quand on essaye de dire quand même... par rapport à la question des musulmans, que le Messie, quand même, qui a connu la souffrance, qui a connu la mort, comment c'est possible, et tout ça, les premiers disciples, c'était aussi une grande affaire. Donc il a bien fallu se dire comment ça se fait, cette chose-là, qui a eu le rejet par le peuple, le rejet par les chefs religieux, comment ? Et donc, relire, essayer de comprendre, donc... Le « il fallait que », c'était dans les Écritures, c'était pour comprendre comment a été le destin de Jésus, le bien-aimé, le Fils unique, comment ça, il a eu ce destin-là, quand même. Donc, c'est un effort d'interprétation pour comprendre.
Oui. On appelle, le chemin d'Emmaüs.
On appelle toutes les Écritures pour essayer de comprendre. « Ah oui, mais il y a le serviteur souffrant dans Isaïe. Ah, mais il y a le psaume 22. Ah, mais... »
Oui, c'est pas écrit d'avance. En
fait, non, c'est pas écrit d'avance.
Il faut pas entendre le « il fallait » comme une obligation contre nos deux, mais le « il fallait », c'est en fait, c'est un procédé narratif de d'écriture, de relecture.
De relecture.
Bah oui, c'est les disciples de Emmaüs. Ils m'ont raconté. Ah bah oui, il fallait que ça se passe comme ça. On a pris conscience de ça et on raconte comme ça pour arriver jusque vous. Et c'est, on monte toute la suite logique pour arriver jusque là.
Tout à fait.
Celui qui le dit le plus souvent dans c'est l'évangile de Matthieu. À chaque fois qu'il met une citation,
accomplissement des Écritures,
il dit qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que, en fait, il rapporte les moments, les événements présents à ce qui a été raconté.
Parce qu'il est écrit pour des Juifs.
Tout à fait ça, oui.
C'est une manière de
Sans
et de dire que la Bible est vérité. Et...
Sans enlever la liberté, parce que je crois dans l'interprétation, mais Jésus comprend au fur et à mesure ce qui va lui arriver. Au tout début de l'évangile, il ne sait pas qu'il va venir sur la croix. C'est même dans ce qu'il raconte, il y a une conversion. Oui. Quand il dit qu'au départ, avant les Juifs, la personne, puis au fur et à mesure, ça
a oui, tout à fait.
Le discours sur la montagne, ce n'est pas la même chose qu'au début. Donc Jésus, moi je pense qu'au début des 30 ans, il ne sait pas que. Au final, c'est la croix.
Il y a quand même la tentation. Quoi,
oui, c'est vrai.
Je pense qu'il était libre par rapport à cette tentation, sinon, c'est faux. Quoi.
Je pense qu'il est libre.
Oui, Bernard, je pense qu'il est libre. Sans doute que le premier coup, quand même, qui a dû lui dire ça peut mal tourner, c'est Jean-Baptiste.
Oui.
Alors là, quand on lui rapporte la mort de Jean-Baptiste, il se retire et tout ça. Là, je pense qu'il a dû y avoir quand même un premier humainement, puisque je suis bien d'accord avec toi que dans son humanité, il a dû... mais l'hostilité, il pouvait la sentir grandir, on essaye de lui tendre un piège, etc. Il pouvait quand même voir des choses, mais ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, ça, quand même, ça doit être un sacré coup d'avertissement. Hein.
Moi, je pense qu'il finit par adhérer au projet de Dieu pour lui. Il y adhère pleinement. Mais il y adhère, c'est pas destiné.
Mais dans la liberté, le Fils.
Et à la fin, quand il dit « Montons à Jérusalem pour vivre ce que j'ai à vivre », il y a des apôtres qui ne veulent pas venir, moi, si c'est pas qu'ils ont bien compris que ça allait tourner mal. Donc, si les apôtres ont compris, Jésus, je pense qu'il avait compris aussi.
Oui, là, on est quand même vers la fin du ministère. Oui, oui.
Oui, donc toute notre vie sera un chemin de réinterprétation pour mieux l'accueillir, ce Messie, dans ma vie, dans la vie de ma communauté, de ma famille, et puis pour la transformation du monde.
Donc pour pas que le mot « interprétation » soit mal interprété,
oui.
Ben oui, c'est le mot « conversion » qu'il faut mettre
avec. Oui, « conversion ».
Oui, il y a une conversion avec l'interprétation.
Parce
oui.
que, effectivement, oui. très bien, le oui. premier degré, oui. interpréter la langue, là, et puis qu'on soit complètement à côté de la plaque. C'est un mot-là, ça semble être.
Oui.
Conduit à
la conduite. Voilà, c'est ça. Une conversion au vrai Dieu, quoi. On se tourne vers le vrai Dieu. Mais c'est vrai que, mystérieusement, curieusement, notre GPS va devoir fonctionner jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Parce qu'on n'a encore pas exactement le point, quoi. Même si nous croyons que lui, il est le Christ, il reste très mystérieux.
D'autant qu'on dit Dieu a donné son Fils en sacrifice, on a l'impression que Dieu veut la mort de son Fils. Et ça choque beaucoup de gens. Même avec Abraham, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son Fils. Moi, j'ai entendu chez des jeunes ça. Ils disent, moi, je ne peux pas croire que Dieu demande qu'on sacrifie maintenant quelqu'un de vivant. Et ça, je ne sais pas très bien comment on expliquer. Quoi.
C'est sûr.
Ah oui.
C'est pas facile.
Le rabbin, c'est marrant, je crois, parce qu'il avait dit, Abraham, il s'est bourré, il ne fallait pas obéir. Il ne fallait pas obéir.
Certainement, parce qu'autrefois, ils avaient l'habitude de sacrifier effectivement les prémices de la moisson, le premier-né, des choses comme ça. Et tout le monde sacrifiait des êtres humains.
Justement.
Et je crois que c'est le seul peuple qui a petit à petit compris que.
Ben justement, ce que disait le rabbin, c'est que là, Abraham était un garçon admirable sur une tas de choses, et là, il vote.
Voilà. Oui, il vote. Et il a finalement
dire, non.
Il a compris que c'est pas ça que je voulais.
Oui.
Et inversement, le Fils, dans la filiation, le Fils Jésus, qui se présente comme Fils, c'est librement, par amour, qu'il se donne. Donc il y a une réinterprétation de tout cela. Là, encore une fois, il y a une réinterprétation. Le Nouveau Testament permet de réinterpréter.
Par rapport au sacrifice d'Isaac, il faut quand même se rappeler qu'Isaac est l'enfant de la promesse.
Oui.
Pour une longue vie et tout ça. Et que s'il lui pose la question, tu sacrifieras ton fils, c'est pas tant pour sacrifier Isaac que ça. Que pour vérifier, que pour valider la confiance de Abraham en Dieu. Il lui donne un fils, qui est le fils de la promesse, sa descendance et tout ça, et en même temps, il lui dit jusqu'où tu vas me faire confiance. C'est ça qu'en fait, qu'essaye de montrer en fait,
oui, mais Abraham, justement.
Ben non, c'est justement, il va le faire, et au dernier moment, évidemment, Dieu ne va pas se réveiller puisqu'il va justement arrêter. L'ange va apparaître et va l'arrêter. Mais c'était une manière de montrer Abraham a montré au Seigneur la confiance totale qu'il avait
Qu'il n'a pas compris. En fait, respectant, il avait deux schémas, il avait dominé qu'il allait l'arrêter. Et il a été plus malin parce qu'il a dit je vais bien.
Ah ben c'est beau que vous vous disputiez là-dessus, hein.
C'est beau.
C'est beau parce que ça montre qu'on est en quête de réinterprétation continue.
Voilà.
Abraham, il a tout.
On se garde pour la suite,
mais mais toujours avec la confiance qu'au dernier moment, quelque chose allait se passer.
Oui, la confiance. Oui.
Vous savez, avec la confiance, de toute façon, la promesse tient toujours. La promesse qu'il aura un fils qui va. Ouais, il y a confiance dans cette promesse. Donc, il demande ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas pourquoi il demande ça, mais de toute façon, il avait confiance dans la promesse qu'il aurait un fils et qui va.
Laissons-nous surprendre à chaque fois et même surprendre par les interprétations différentes de nos frères et sœurs. Oui. Laissons-nous surprendre, quoi. Et là, Christine va nous surprendre.
Alors,
elle a préparé une surprise.
Non. Alors, dans le. Là, on est d'accord, dans la dernière semaine, ce qu'on appelle l'octave, qui précède Noël. Il y a eu des moments où c'était. D'ailleurs, l'avant, c'était la semaine. Il y a eu des moments dans l'histoire où ça a été la semaine de préparation à Noël, parce qu'on se préparait à la fête de Noël, mais aussi, 5e, 6e siècle, à l'Épiphanie, il y a des baptêmes d'adultes. Donc, là, toute la communauté chrétienne, on se prépare. Là, il va y avoir les baptêmes d'adultes. Préparons-nous tous ensemble. Donc, cette semaine avant Noël, elle est importante depuis longtemps. Et il existait dans la liturgie des antiennes magnificat le 17 décembre, le 18, le 19. Ô sagesse sortie de la bouche de Dieu, viens nous montrer le chemin de la vie. Ô Adonai, viens accomplir de nouvelles merveilles. Ô rameau de Jessé, viens déployer ta victoire en nos vies. Ô clé de David, viens pour ouvrir aux captifs leur prison. Ô soleil de justice, viens repousser les ombres de la mort. Ô roi des nations, viens renverser les murs qui nous séparent. Ô Emmanuel, viens, tout est prêt, les temps sont accomplis. Donc, c'est très ancien. On appelle ces antiennes, qui étaient les antiennes juste du Magnificat, les antiennes ô. Et au 9e siècle, elles étaient déjà chantées. C'est une vieille... Bon, la liturgie, il y a de très belles choses qui fortifient notre foi. Donc, avec Patrice, on vous propose de terminer notre rencontre en écoutant, et puis vous avez le texte, ces antiennes pour chaque jour du Magnificat dans l'octave qui précède Noël.
Et si possible, en s'émerveillant.
Et en s'émerveillant.
Oh, il faudrait que ça... Ça exprime une nouveauté sur le moment. C'est beau, la liturgie, hein, c'est dialogique. Et en fait, elle surprend.
Elle surprend,
c'est
surtout que ça
marche. Oh!